Interview.
2 jours.
Marie Pochon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici à l'inauguration de cette 23e rencontre dit Biovallée Drôme avec ce titre « Coopérer pour un territoire vivant » et donc un festival dédié à l'écologie, d'ailleurs organisé par Écologie au quotidien. Pour vous, c'est aussi l'écologie un engagement et vous êtes aussi membre du parti Les Écologistes et aussi député de la 3e circonscription de la Drôme. Alors avant tout, je vous souhaite une bonne année parce qu'on est encore au dernier jour du mois de janvier. Pour vous, quel serait votre conseil pour ce qui se passe aujourd'hui ?
Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il se passe plein de choses.
Et surtout l'instabilité,
oui.
le montée du fascisme.
Je pense qu'il y a effectivement cet aspect-là qui est très important et qui peut être extrêmement angoissant. Et moi, je ne vais pas mentir à vos auditeurs, en tout cas, à vous dire que je dors bien toutes les nuits ou que je suis tout à fait sereine par rapport à la situation dans laquelle on est. Moi, je crois que la situation est angoissante, la situation est inquiétante. C'est la montée de l'extrême droite, c'est la mainmise des ultra-puissants sur l'ensemble des algorithmes de nos réseaux sociaux, de la presse, de la fabrique de l'information. C'est Trump aux États-Unis, c'est un Premier ministre ici en France qui semble s'abreuver des informations de CNews pour raconter que le plus gros sujet finalement qui concernerait notre pays, c'est la submersion migratoire, alors même qu'un département français entier a été totalement détruit, anéanti par les conséquences du changement climatique le mois dernier. Et qu'un certain nombre de nos concitoyens, par ailleurs, se réveillent en ce moment, les pieds dans l'eau, notamment sur les côtes ouest de la France. Moi, je trouve qu'on est en plein dans le syndrome de l'autruche, à effectivement vouloir se voiler la face sur ce que sont les vrais sujets, en inventant des sujets qui sont sans doute électoralistes, mais qui nous divisent, qui nous affaiblissent, parce que quand on est divisé, on est affaibli. Et diviser la nation, la communauté nationale telle que ces gens-là le font est, à mon avis, totalement irresponsable, en plus d'être anti-républicain. Bref, donc tout cela est angoissant, oui, mais face à cela, moi je crois que le conseil que je donnerais, en tout cas, c'est celui de garder espoir, c'est celui de continuer à échanger, à partager. Je crois que quand on connaît nos voisins, nos voisines, quand on échange les uns avec les autres, on fait tomber un certain nombre de préjugés et de ressentiments qu'on pourrait avoir sur les uns, sur les autres. Souvent, on calque des modèles et on se dit qu'on aimerait bien que les autres changent de comportement sans vouloir se changer soi-même. Je pense qu'échanger, avoir de l'empathie, reconstruire ces tissus de solidarité et de coopération, comme c'est le thème d'ailleurs de ces rencontres, je crois que là est la clé à la fois de notre puissance collective et à la fois d'un mieux vivre et et globalement d'une meilleure ambiance aussi dans ce pays, parce que à jeter de la haine dans tous les sens, on sent aujourd'hui la morosité qui atteint absolument tout le monde.
Alors ça, c'est un aspect de globalisation de la planète via le numérique qui propage aussi ce malaise. Mais au niveau du territoire, comme coopérer pour un territoire vivant, est-ce qu'il est peut-être plus facile d'agir encore au niveau local ?
Oui, il est tout à fait possible et il est souhaitable même d'agir à l'échelle locale. Là, bientôt, on va avoir des échéances, d'ailleurs, à l'échelle locale avec les élections municipales qui arrivent. Et je crois que c'est une belle opportunité pour plein de gens qui ont pu aller voter, qui ont pu aller manifester, qui ont pu signer des pétitions, qui ont pu faire plein de choses toutes ces dernières années et qui parfois se disent qu'ils ne sont pas bien écoutés. Moi, je le dis parce que je travaille beaucoup sur la question des doléances, par exemple, du Grand Débat National. Il y a énormément de gens qui ont participé. On est là sur la plus grande initiative démocratique en expression libre depuis la Révolution française. Et tout cela a été mis aux archives départementales. On n'y a plus jamais touché, malgré la promesse qui avait été faite de les rendre publics. Et donc, Il y a beaucoup de gens qui, ces dernières années, ont fait toutes ces choses-là, ont souhaité s'exprimer et leur parole n'a pas été écoutée. Et donc, je crois que les municipales sont un beau moment démocratique pour pouvoir agir à l'échelle locale, même alors, en candidatant, bien évidemment, et c'est super de s'engager sur une liste ou hors liste, mais juste de s'engager en tant que citoyen, ou d'accompagner des personnes qui souhaiteraient être élues. L'avantage du niveau local, c'est qu'on a un peu plus la main sur ce qui va se passer. On est sur des projets très, très concrets qui touchent au quotidien. Et je crois que c'est au travers de cet échelon-là qu'on peut avoir vraiment le sentiment de servir à quelque chose, de changer quelque chose et de créer du commun, de créer du collectif avec ses voisins et ses voisines.
Alors les dernières consultations législatives ont pris de court beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à ces électeurs qui se sont sentis, comme moi hein, ou d'autres, floués de ces choix de perspectives politiques et qui vont à l'encontre d'une logique
Alors effectivement, les choix du président de la République suite aux élections législatives anticipées ont été pour le moins désarçonnants. Sinon totalement antidémocratique, puisque le bloc qui était arrivé en tête aux élections législatives, sans avoir gagné l'élection, mais qui est arrivé en tête, était bien celui du Nouveau Front Populaire. Et donc, il lui était normal de nommer effectivement une personne issue de ce Nouveau Front Populaire pour pouvoir former un gouvernement. Et par ailleurs, ce qui était intéressant, je trouve, dans la démarche du Nouveau Front Populaire, sans être très objectif, bien évidemment, c'était l'engagement de ne pas utiliser le 49-3, c'est-à-dire l'engagement de construire le compromis, texte après texte, et de construire le dialogue et d'écouter tout le monde. Et ça, c'était un engagement que nous prenions, qu'aucun des premiers ministres nommés jusqu'alors, M. Barnier ni M. Bayrou, n'a tenu et n'a voulu tenir. Donc, et je crois que cela explique totalement la situation dans laquelle on est. Mais voilà, moi, je sais le nombre de concitoyens et concitoyennes qui se sont mobilisés lors des dernières élections législatives, c'est plus de 43 000 personnes qui ont voté rien que pour moi. C'est énorme en termes de mobilisation. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Aucun député de la Drôme n'a été aussi bien élu que moi. Donc j'en tire une très grande responsabilité dans cette dynamique-là. Et que leur dire, à part effectivement la vérité, que le fait que le président de la République n'ait pas respecté le choix des électeurs est insupportable. Et que nous essayons de travailler à l'Assemblée tout de même, malgré ce contexte, à œuvrer dans le sens du dialogue. Nous avons essayé de discuter avec M. Emmanuel Macron, avec M. Barnier, avec M. Bayrou. À chaque fois, en tant qu'écologiste, on est très peu écouté et les budgets de l'écologie sont en train de tomber totalement. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de sortir de l'accord de Paris. Hein. C'est ça qui est en train de se passer avec le budget 2025 qui nous est proposé. On essaye de dialoguer, mais malheureusement, avec une non-volonté de compromis de la part des soutiens du président de la République.
Et puis, il y a aussi cette persistance des pouvoirs actuellement et aussi de l'exploitation bourgeoise et industrielle, de toujours aller dans la fuite en avant face à ces préoccupations du public. Mais qu'est-ce qui les fait tenir ? Est-ce qu'il y a une tendance suicidaire ou alors c'est du profit à court terme ? Est-ce que vous analysez un peu cette démarche de leur part ?
Moi, je pense que de ce que j'observe, en tout cas depuis 2 ans, je suis assez nouvelle hein, dans ce monde-là de la politique, de la haute politique. Moi, ce que je constate, c'est quand même une élite qui est très, très déconnectée de tout ce que je peux voir, moi, au quotidien, dans la circonscription, en tout cas. C'est des gens qui sont abreuvés aussi par CNews, par le JDD, etc. Hein, et ce qui explique leur manière de penser le monde, un monde dans lequel l'écologie n'est pas un sujet, mais l'immigration est le plus grand des problèmes. Je pense que tout ça nourrit leur mode de pensée et effectivement un mode de pensée extrêmement libéral qui est dangereux à terme parce qu'en fait l'État, la puissance publique, elle est là pour protéger, elle est là pour mieux répartir les richesses, elle est là pour garantir les droits de chacun et chacune. Et cette fuite en avant du toujours moins d'État, de dégraisser le mammouth, de tout ce qu'on entend sur supprimer toutes les agences, tout supprimer en termes de dépenses publiques, elle est dangereuse. Parce qu'en fait, qui va payer ? Ce sera notre jeunesse, ce sera nos territoires ruraux. Parce que nos territoires ruraux bénéficient de pas mal de programmes pour lutter contre la fracture territoriale. Là, pour vous dire, on est en train de batailler en ce moment même parce que c'est plus de 2000 postes d'accompagnants numériques qui sont supprimés. Les accompagnants numériques, c'est les personnes qui travaillent par exemple dans les agences France Services et qui accompagnent toutes celles et ceux ici dans la Drôme qui n'ont pas d'ordinateur. utilisateurs qui ne savent pas parfois se servir d'un ordinateur. Et pour autant, avec la dématérialisation, on a besoin aujourd'hui des outils numériques pour avoir accès, par exemple, à son compte CAF, chômage, pour la retraite, pour la MSA. On a besoin d'outils numériques. Mais il y a aujourd'hui, c'est près de 15% de Français qui sont en situation d'électronisme. Donc là, je vous parle d'un cas précis, mais toutes ces personnes-là vont être abandonnées. En vérité. Et donc tous ces outils-là, la puissance publique, elle doit être là pour protéger, elle ne doit pas être là pour aider les marchés. Elle doit en placer en son cœur, et c'est ce que je disais pendant mon discours, d'abord le prendre soin des autres et l'humain au cœur.
Alors le public laissé à l'abandon, parfois, est tenté d'aller vers là où on veut bien les écouter, entre guillemets, c'est l'extrême droite. Pour vous aussi, c'est... une préoccupation qui occupe même le territoire de la Drôme. Vous avez affaire à ce changement.
C'est un peu particulier parce que je l'ai vu pendant la campagne en 2024, je le vois effectivement sur le terrain là. Il y a une normalisation, il y a une banalisation des idées de l'extrême droite. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait que nos dirigeants s'imprègnent de ces idées-là et de contre-vérités, de choses qui sont factuellement fausses, de mensonges. Dont ils se bercent eux aussi, et je trouve que ça c'est irresponsable. Quand on est dirigeant politique, on doit s'assurer de l'indépendance des médias que l'on regarde, de l'indépendance de l'information que l'on transmet également, et je trouve que ça c'est absolument primordial. Mais effectivement, l'extrême droite imprègne les esprits ici même dans la Drôme, alors même que la plupart des idées qui sont portées par le Rassemblement National vont à l'encontre de nos intérêts en tant que Drômois, peu importe nos opinions politiques par ailleurs. Mais quand on défend l'ultra-libéralisation en matière agricole, le fait d'autoriser de plus en plus de substances phytosanitaires, le fait de produire toujours plus, peu importe finalement les conditions de production, et le fait de produire toujours plus à des prix toujours plus compétitifs, même si ça veut dire qu'on perd un maximum de paysans dans nos campagnes. Ça, c'est un danger. C'est ce que promeut aujourd'hui l'extrême droite. Quand l'extrême droite se bagarre contre nos propositions de loi pour encadrer, par exemple, les Airbnb, c'est l'extrême droite qui est contre. Quand l'extrême droite s'oppose également à nos outils de lutte contre la désertification médicale. Toutes ces propositions, elles viennent de la gauche et des écologistes. Et toutes ces propositions, elles aident à permettre et garantir des campagnes vivantes. L'extrême droite, finalement, se nourrit de ce sentiment d'abandon de nos territoires ruraux. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à défendre véritablement les gens qui habitent ici. Et tout ce qu'ils veulent, c'est nourrir la division entre, par exemple, les anciens, les natifs et les néo-ruraux, par exemple. Ils vont se nourrir de cette fracture-là. Moi, je crois qu'on est divisé, on est vulnérable et on est fragile. Et je crois qu'on a besoin d'unité, je crois qu'on habite toutes et tous ce territoire, on travaille sur ce territoire, on aime toutes et tous ce territoire, et je crois que ça devrait être assez fort pour qu'on aille le défendre ensemble.
Et la dernière question, c'est l'incertitude qui existe aujourd'hui avec ces gouvernements successifs et puis cette menace aussi de censure peut-être encore.
Cette situation soit absolument pas rassurante, moi elle ne me rassure pas en tout cas. Oui, il est possible que dès la semaine prochaine, il y ait une nouvelle motion de censure et que cette motion de censure soit adoptée. Ce qui est autre chose que les motions de censure qu'on va pouvoir faire pour donner un signal comme celle d'il y a 15 jours. Tout cela n'est absolument pas rassurant, mais je reviens au point que je disais au début. La seule manière dont cette assemblée en trois blocs peut tenir et qu'un gouvernement peut tenir à un temps un petit peu plus long, c'est avec la garantie de ne pas utiliser le 49.3, de ne pas censurer la représentation nationale. Là, aujourd'hui, on a un gouvernement, un exécutif, qui, finalement, veut faire fi du Parlement et nourrissant une forme de discours un peu anti-parlementariste. Ces gens-là sont irresponsables, etc. Ce qui est très, très dangereux sur le long terme, hein, par ailleurs. Hein, l'institution Assemblée nationale, c'est un contre-pouvoir essentiel dans notre démocratie, dans notre République. Et je crois que, voilà, il faut la défendre en tant que telle, même si elle a plein de défauts, mais... je suis très parlementariste, mais on a absolument besoin de cette institution. Mais je pense que ce garantir la non-utilisation du 49.3, ce sera la seule manière d'avoir une stabilité gouvernementale. Tant qu'on aura des gouvernements ultra-minoritaires, là aujourd'hui, M. Bayrou, qui vient du Modem, qui a moins de députés dans son groupe que le groupe écologiste auquel j'appartiens. Ils sont, je crois, 32, nous on est 38. Alors on peut... à ce compte-là, c'est forcément que ça ne tient pas. Tout gouvernement minoritaire dans ce contexte-là doit s'engager à faire des compromis, s'engager à écouter chacun, chacune dans cette assemblée, s'engager à cela, et par ailleurs devrait s'engager à une deuxième chose qui est de continuer le Front républicain, parce que c'est ce qui a été demandé par les électeurs le 7 juillet dernier. Trois quarts des Français ont voté pour le Front républicain, et je crois qu'il faudrait ne pas oublier quand même ce qui s'est passé le 7 juillet dernier en termes de mobilisation collective. Et le troisième sujet, je crois, au-delà du compromis du Front républicain, c'est la question de la rupture en termes de politique publique. Je crois qu'entre le 9 juin et le 7 juillet, c'est-à-dire trois élections qui ont eu lieu il y a à peine 6 mois, c'est les macronistes qui ont perdu à chaque fois. Et donc il y a un besoin de rupture, de cesser cette continuité des politiques publiques, arrêter de faire comme ce qu'on a fait depuis 7 ans, qui construit du dégoût, qui construit du désolement, et changer de politique. Et je crois que c'est ces trois axes qu'il nous faut tenir.
Marie Pochon, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de temps pour RDWA, et avec le plaisir peut-être de vous réentendre prochainement.
Ouais, avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Engagements seront respectés.